Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello. 9h41 sur France Inter, soyez les bienvenus. C'est le dernier instant M de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
Koh-Lanta, le retour. Enfin se pâment les fans. Une précédente saison brutalement annulée lorsqu'une candidate s'est dite victime d'une agression sexuelle pendant le tournage. L'enquête est en cours. Le jeu d'aventure, lui, est reparti aux îles Fidji avec de nouvelles équipes et de nouvelles règles. Résultat très réussi, vous diront les connaisseurs. L'épreuve des poteaux, en guise de séquence inaugurale, recrée une dynamique très efficace. Histoire d'un divertissement culte, donc, qui n'a cessé de se réinventer, interrogeant à chaque fois les notions de rivalité, de compétition, et cette fois-ci de pouvoir. Ces notions que nous vivons au quotidien et que nous retrouvons le vendredi soir, allez savoir pourquoi, façon Robinson Crusoe à la télé.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Sonia.
Avec béquille, plâtre, attelle.
Plus de plâtre. Attelle, oui.
C'est une attelle. Ça voilà. Va quand même ?
Mais ça va. Ma rupture du tendon d'Achille n'est plus qu'un vieux souvenir.
C'est ça, c'est bien la radio, on voit pas tout, mais ça se raconte. Bon, alors on va en parler de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, on va en parler dans une minute, parce que vous connaissez l'émission de Denis Brognard. Le vendredi, on joue, le vendredi, on accueille Bruno Donnet, ça va Bruno ?
Très bien, sur deux pieds, bonjour Sonia.
Sur deux pieds, exactement, pour sa semaine médiatique, dans un instant. Alors, le jeu du vendredi, une adresse, l'instantm@radiofrance.com, un cadeau, un bouquin absolument formidable, une coédition La Martinière, France Inter et France Culture. Tout le procès Mera raconté par des textes et des dessins. C'est pas vraiment de la BD, c'est pas du roman graphique, c'est autre chose, c'est superbe. Et donc la question du jour, comment s'appelle cette émission présentée par Karen Cheryl en 1992 ? Les téléspectateurs, souvenez-vous, transformaient leur cadran de téléphone en manette, en quasi-manette de jeu vidéo.
Alors bien sûr, vous regardez sur la droite de l'écran, vous savez que ça vous permet d'anticiper vos mouvements. Vous voyez les petits tracés blancs. Bonne synchronisation, très bien. Le but, bien sûr, c'est d'attraper aussi le plus possible de petits sacs d'or pour les bonus. Ah, une voie de garage.
Quel train d'enfer.
Voilà, l'instant M à radiofrance.com et à la fin, il...
N'en restera qu'un.
Merci. Bruno Donnet, dimanche, vous avez vu dans le 20h de France 2 un reportage absolument remarquable. Et une fois n'est pas coutume, vous avez eu envie ce matin de vous emballer.
Oui, car plus qu'un reportage, Sonia, le sujet sur lequel je suis tombé dimanche est un véritable document. Un document à archiver précieusement, un document pour l'histoire. Ces trois auteurs, Stéphanie Pérez, Stéphane Guimau et Ludovic Lavieille, se sont rendus en Syrie, à Baghouz plus précisément, la toute dernière enclave détenue par les irréductibles de Daesh, un endroit qui présente une petite particularité.
Assaillis depuis plusieurs semaines, les combattants du groupe État islamique et leurs familles se sont retranchés ici, dans une bourgade du désert syrien.
Il a fait l'objet d'un pilonnage massif de la part des forces de la coalition. Tellement massif que ce que l'équipe de France 2 s'attendait à filmer, disons-le franchement, c'était des ruines. Mmh. Celles d'un camp de djihadistes vidé de ses occupants.
Ici, au milieu de tentes en lambeaux, ce combattant kurde nous montre les trous que les djihadistes ont creusés dans la terre pour se protéger.
Seulement voilà, en arrivant sur place, les reporters ont eu une petite surprise.
Chassés de ce secteur, les irréductibles du groupe État islamique se sont retranchés un peu plus loin, dans un autre campement. Nous ne sommes qu'à 200 mètres.
Bien loin d'avoir débarrassé le plancher, les combattants sont toujours là. La guerre fait rage et les visiteurs ne sont pas franchement les bienvenus.
Soudain, nous sommes obligés de nous replier.
Alors, en deux temps trois mouvements, les reporters de France 2 se sont adaptés à cette situation qu'ils n'attendaient pas, pas là, pas comme ça. Et en fait, de territoire abandonné, ce qu'ils nous ont donné à voir, eh bien, c'est la guerre. Mais attention, pas la guerre telle qu'on a coutume de l'apercevoir sur les trop rares clichés figés qui nous parviennent de Syrie. Non, la guerre en mouvement. Et si leur document est hautement précieux, c'est parce qu'il est aussi infiniment subtil. Car certes, on y entend des balles siffler. Effectivement, on a très peur pour eux, mais on y voit surtout des images totalement paradoxales.
Nous entrons dans la tente d'une famille. Elle a été abandonnée à la hâte.
Car dans la tente de ces terroristes, par exemple, juste à côté des balles de fusil mitrailleur, on aperçoit un doudou abandonné par un gosse. Puis on découvre qu'entre deux bombardements et trois tirs de sniper, les djihadistes font de la mobilette.
Devant les bâtiments, au milieu des carcasses de véhicules, beaucoup de mouvements. Des motos qui vont et viennent tranquillement. Des silhouettes d'hommes et de femmes qui déambulent.
Eh oui, on n'imaginait pas l'ignominie la plus abjecte sous cet angle. On n'imaginait pas que la barbarie pouvait faire de la mob en même temps que la guerre, et des enfants auxquels elle offrait des doudous. Alors voilà, à un moment où le travail des journalistes est de plus en plus décrié et où certains n'hésitent plus à les prendre pour cible, y compris physiquement, et loin, très loin des champs de bataille, évoquer ce formidable reportage, sa valeur de document pour l'histoire, mais également la somme de courage qu'il a fallu à ses auteurs pour le réaliser, m'a semblé infiniment nécessaire. Et souligner que lorsque des journalistes vont filmer la guerre, ils partent seuls, comme ils l'ont toujours fait, alors que ceux qui sont chargés de couvrir de simples manifs en France sont désormais flanqués d'agents de sécurité, une incongruité sur laquelle il y a peut-être matière à méditer.
Peut-être. Merci beaucoup Bruno Denet. Sa semaine médiatique est donc à réécouter sur France Inter. Le sujet de France 2, on peut encore le voir en replay.
Absolument.
Sur le site de France Télévisions. Donc allez le voir puisque ça entre dans ces images qui feront l'histoire. Et puis en attendant, pendant qu'on écoutait Bruno Denet, Frédéric a remporté le jeu du jour, la Madeleine. Il a reconnu cette émission de 1992 qui s'appelait Hugo Délire. Et puis aussi j'envoie des bises à Gilbert qui est notre gagnant de la semaine dernière. Il avait reconnu Lecture pour tous, l'émission de Dumayet à l'ORTF, la première émission de lecture. Voilà. Puis moi, la semaine dernière, je me suis tellement fait embarquer par Delphine Minoui, notre invitée, que j'ai oublié d'annoncer le nom de Gilbert. Gilbert, vous êtes là et vous avez gagné.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Denis Brognard, le maître de Koh-Lanta, est donc mon invité. On va reparler quand même de ce dernier tournage, une saison annulée en cours de route suite à la plainte d'une candidate qui s'appelle qui s'appelle Candide Renoir. Elle a 21 ans, elle s'est dite agressée par un autre candidat, Eddy Guyot. Vous n'avez pas souhaité reprendre les candidats qui sont repartis extrêmement déçus, j'imagine, de cette précédente saison.
Alors on n'a pas souhaité les reprendre sur cette saison-là parce que ça nous paraissait beaucoup trop proche. Et ça, on pensait qu'on les mettait dans une situation qui aurait été défavorable. Voilà, quelques mois seulement après, il n'est pas du tout impossible qu'on puisse retrouver certains de ces candidats
dans une prochaine saison. Parce qu'il y a certains de ces candidats qui seront entendus dans l'enquête ou qui ont été entendus, je ne sais pas, dans l'enquête parce qu'ils ont peut-être ou non été témoins de ce qui s'est passé. C'est aussi parce que certains d'entre eux ont témoigné dans la presse, se sont exprimés, parfois chargeant la plaignante. Ou pourquoi ?
Écoutez, moi, je veux même pas rentrer sur le fond de l'affaire, puisqu'elle est en cours d'instruction. Ce que je peux vous dire encore une fois, c'est que on prendra peut-être dans les saisons qui viennent des candidats valeureux de cette saison malheureusement annulée. Et c'est vrai. Moi, je me souviens quand
faut le dire hein, que quand même, c'est quelque chose qu'on retrouve à chacune des saisons. C'est des gens qui attendent une vie entière pour faire Koh-Lanta.
La plupart d'entre eux. C'est clair. Ouais. Et il faut voir leur détresse, quel que soit leur âge, quel que soit leur provenance. Au moment où on leur a annoncé que c'était terminé, et surtout que pour les trois quarts d'entre eux, ben, ils n'y étaient absolument pour rien. Voilà, donc à un moment ou un autre, on a réfléchi avec TF1, avec ALP, et on s'est dit que c'était beaucoup trop tôt pour intégrer ces gens-là dans une autre saison.
Donc voilà, l'avocat maître Jérémy Assous, qui a déjà ferraillé, ça c'est l'histoire ancienne, contre la production pour obtenir des garanties salariales pour les participants à Koh-Lanta, accuse aujourd'hui la production qu'il considère comme responsable de ce qui s'est passé. Comme on ne sait pas très bien ce qui s'est passé et de quoi il parle, on ne sait pas très bien de quoi ça retourne. Mais est-ce que vous avez modifié les conditions de tournage? Est-ce que vous avez pris de nouvelles mesures, des précautions? Est-ce que vous avez modifier la façon dont vous accueillez, vous accompagnez les candidats pendant les tournages?
Non, parce que franchement, ce qui s'est passé, encore une fois, personne ne sait véritablement ce qui s'est passé. Moi le premier, puisque j'étais pas là. Mais c'est quelque chose qui nous paraissait tellement loin de Koh-Lanta. Ce sont des gens qui sont ensemble. Il faut savoir que même lorsqu'ils sont sur place, seuls, il y a quand même des équipes techniques, il y a quand même des gens qui sont là pour surveiller le camp sur lequel ils se trouvent. Donc tout est fait normalement.
Il y a accès à un téléphone de secours.
Bah, évidemment. Parce
que, bon, d'accord.
Alors ça s'appelle pas forcément un téléphone, ça s'appelle un talkie-walkie.
D'accord.
Sur lequel on peut appeler la production, on peut appeler en direct le médecin de la production qui peut s'exprimer
avec les candidats. C'est la dernière info qui a circulé que cette jeune femme aurait voulu avoir accès à un téléphone de secours. Il n'y a pas.
Mais non, parce que c'est exactement comment c'est comme ça que ça s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas elle qui a pris ce talkie-walkie, c'est quelqu'un qui était dans son équipe. équipe et qui a demandé une intervention. Et immédiatement, les gens se sont mis en place pour que 10 minutes après, tout le monde soit sur place et puisse entendre et cette jeune femme et les autres membres de cette équipe.
Alors, Koh-Lanta revient avec un combat des chefs et une petite nouveauté.
Les voilà les 21 nouveaux naufragés de Koh-Lanta. Ils sont venus au bout du monde. Et surprise, leur aventure commence par la fin, l'épreuve des poteaux.
Les poteaux, qui est quand même, qui fait partie des épreuves cultes de Koh-Lanta, devient donc l'épreuve inaugurale pour les 21 candidats. Il y a déjà eu 3 équipes en 2017. Mm-hmm. Vous étiez revenu à 2 équipes. Vous revenez à cette formule de 3 équipes. Mais ça commence par l'épreuve des poteaux. L'épreuve des poteaux va désigner des chefs. Mm-hmm. Et ces chefs vont désigner leurs équipes. Mm-hmm. C'est ça?
Ils vont constituer leurs équipes.
Ils vont constituer leurs équipes.
C'est ça qui est rigolo. Mais
sachant que c'est toujours pareil avec l'épreuve des poteaux de Denis Brognard.
C'est-à-dire?
C'est les petits aux petits pieds qui sont favorisés.
Mais pas du tout.
Mais si. Mais bien sûr.
Je vais vous donner un exemple. Pascal, qui a gagné l'épreuve des poteaux 2 fois et dont la dernière édition.
Chose du 72.
Il chose du 45 fillettes. Voilà, il a des pieds plus grands que les miens. Donc à un moment ou un autre, si c'était effectivement la panacée que d'avoir de chausser du 2 ou du 37 fillettes, ça se saurait, mais il y a autant de femmes que d'hommes qui ont gagné les poteaux, il y a autant de grands que de petits, le centre de gravité...
En quoi, à votre avis, c'est un bon critère pour choisir un chef? De rester debout sur un poteau pendant un temps absolument infini.
Ce qui est rigolo, c'est que vous savez très bien qu'il y a des gens qui pensent pouvoir être chef et qui ne le sont pas finalement, ouais. D'autres qui hésitent à y aller, mais qui auraient l'envergure pour endosser cette responsabilité. Mmh. Là, le but du jeu, c'est que, si vous vous souvenez bien, dans ce premier épisode que vous verrez ce soir, je ne leur dis pas, je leur dis simplement, attention, les 3 meilleurs sur cette première épreuve des poteaux auront un avantage et un rôle différent.
Non,
c'est tout ce que je leur dis.
Ils ne le savent pas.
Ils ne savent pas.
Non.
Et c'est au moment où, effectivement, on connaît les 3 que je leur dis, attention, toi tu vas être le chef des jaunes, toi le chef des rouges et toi le chef des bleus. Mais ce qui est marrant, c'est d'ailleurs, et on ne donnera pas les noms, mais que sur ces 3 chefs, donc les 3 meilleurs sur les poteaux, eh bien il y en a qui sont très contents d'avoir cette responsabilité. Mmh. Puis d'autres qui disent « Ouh là 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 !»
On peut dire combien d'hommes, combien de femmes? Ou on peut pas le dire encore?
Je préfère qu'on garde le suspense.
Alors on dit rien.
Complètement.
On dit rien, mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que qu'est-ce que c'est que la démocratie selon Koh-Lanta? Qu'est-ce que c'est qu'un chef? C'est quoi la légitimité d'un chef? Écoutez, sans rien dévoiler.
Vous l'avez compris, leur rôle est primordial. Il faut qu'ils puissent guider leur tribu, savoir s'imposer, sans imposer, c'est une mission délicate, c'est un équilibre difficile à trouver. Et puis, bien évidemment, ces chefs peuvent aussi décevoir. Et dans ce cas-là, la tribu peut les destituer et il faudra après en élire un nouveau. Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est parti!
Voilà, donc ces chefs ont été sélectionnés.
Ça n'existe pas à Radio France, ça. Il n'y a pas des chefs qui sont de temps en temps destitués, d'autres qu'on...
Moi, je vais vous dire, vous savez comment ça s'appelle?
Et des chefs qui ne méritent pas d'être chefs et d'autres qui mériteraient d'être.
Alors, il y a des chefs qui ne méritent pas d'être chefs.
C'est la société, ça. Hein.
Mais est-ce que nous, on a ce que Jean-Luc Mélenchon demande depuis des années, à savoir un référendum révocatoire? Et au fond, dans quoi ça se produit dans Koh-Lanta le vendredi soir sur TF1? Un référendum révocatoire.
Je pensais pas que vous alliez comparer Jean-Luc Mélenchon à Koh-Lanta ce matin.
Moi non plus, figurez-vous. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle ensemble depuis des années, Denis Brognard, c'est-à-dire cette façon qu'a Koh-Lanta de concentrer dans un jeu d'aventure qui est extrêmement compétitif et qui met en scène la rivalité. Toutes les questions que finalement tous les Français se posent chaque jour au bureau. Quoi.
Exactement, mais Koh-Lanta, c'est, je vous ai dit, c'est un concentré de la vie. Et c'est
chaque jour au bureau et depuis 3 mois dans la rue avec les gilets jaunes.
Voilà, exactement.
Bah oui, c'est
vrai. Mais c'est ça qui est rigolo. Il faut, quand vous êtes chef, donc vous constituez votre équipe, il faut une équipe où il y a une forme d'osmose, parce que si c'est le bordel dès le départ, ça va pas bien fonctionner. Il faut être fort dans les épreuves. Et puis, il faut avoir des gens avec qui on a un vrai feeling. Et puis, à partir de là, effectivement, vous êtes chef. Mais vous êtes presque un chef proclamé. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui l'a décidé, c'est juste une épreuve. Mmh. Et vous avez raison de le dire, l'épreuve des poteaux n'a rien à voir avec ce statut de leader.
C'est ça.
Mais c'est ce qui fait aussi le piment de cette émission, sachant que les chefs ont tous un bracelet d'immunité qui leur permet de le jouer à un moment au conseil et donc d'éviter une élimination.
Ouais.
Mais si ce rôle de chef ne leur va pas, ils rendent leur bracelet d'immunité instantanément une sonde.
Alors, vous allez voir, c'est eux qui vont désigner les membres de leurs équipes. Donc, ça va vous rappeler d'abominables souvenirs, enfin, en ce qui me concerne, d'abominables souvenirs d'école primaire.
Aïe, aïe, aïe.
Bah oui. Bah,
D'être le dernier,
d'être celui qui n'est pas choisi, c'est absolument atroce. Bref, donc, il y a des hommes et des femmes dans les trois chefs qui vont être désignés. Je ne vous dis pas combien. Ils vont composer leurs équipes. Et comme dans la cour de récré, ils choisissent toujours les garçons en premier. Écoutez.
Je choisis Claude.
La première femme choisie, elle sera bleue. Claude.
Je suis ravie, franchement, d'être la première fille sélectionnée. C'est une motivation supplémentaire. Ça me donnait envie de tout donner pour ma team. En tout cas, je remercie Maxime et les gars de m'avoir choisie.
Heureuse d'être bleue.
Heureuse d'être bleue, ouais.
Après 8 mecs.
Ouais,
la première femme, c'est toujours le même réflexe depuis qu'on a 5 ans. On prend les garçons en premier.
Je vous revois déjà Sonia en CM2.
C'est ça, hein,
dans les buts.
Et vous avez été souvent choisie la dernière ?
Bah oui, j'étais nulle avec un ballon. Exactement.
Oh là,
personne ne voulait de moi dans son équipe de la balle aux prisonniers. Non mais c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que tout le monde a toujours les mêmes réflexes. C'est-à-dire on prend les mecs, on prend les forts physiquement. Et en réalité, ensuite, on voit bien comment on choisit chaque personne qui va concourir pour chaque... En fait, derrière, on choisit les femmes.
Mais... comme ils ont le choix, ils peuvent choisir les hommes, les femmes, en respectant une équité pour qu'il y ait une parité dans chaque équipe. C'est vrai qu'à un moment, vous dites, c'est rassurant, je crois, de prendre les mecs les plus costauds pour se dire, dans les épreuves. Et puis, si vous choisissez une fille, eh ben, ça permet à l'autre chef peut-être de prendre deux garçons coup sur coup et donc d'avoir deux mecs costauds et de pouvoir faire la différence.
Est-ce qu'il change le casting, Denis Brogniart ? Est-ce qu'il change au fur et à mesure des années de Koh-Lanta ? Nous, on avait l'impression qu'il n'était pas plus lisse, parce qu'il y a toujours un vrai bon réservoir de tête à claque, de candidats qui se présentent en disant « Moi, vous savez, je suis génial, j'ai qu'une envie, c'est de bouffer les autres. » Il y a toujours ça dans Koh-Lanta. Bref, mais ça vous fait rire, mais c'est vrai.
Mais dans la vie aussi.
Mais il y a moins de séquences trash comme on a pu en connaître. Il n'y a plus de Moundir qui se bastonne avec Moussaï. Il n'y a plus ces personnages-là, il nous semble.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire et Moundir était un personnage haut en couleur qui a fait 3 Koh-Lanta, qui a ensuite continué sa carrière.
Il pourrait y être encore aujourd'hui.
Mais bien sûr qu'il pourrait
c'est
être
vrai.
Mais évidemment. Mais moi je souhaite qu'on ait un nouveau Moundir dans Koh-Lanta, parce que il y a pas que ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire qu'évidemment c'est un type un peu sanguin, c'est un type qui dit ce qu'il pense à l'instant T, mais vous verrez que dans cette saison, il y a aussi des gens qui s'expriment, il va y avoir de la stratégie très rapidement. Mais moi ce que j'aime dans Koh-Lanta, c'est que ceux que vous allez retrouver les 21 ce soir, eh bien c'est une représentation assez honnête de la population française, des gens qui regardent TF1 avec des jeunes, des moins jeunes, des
mention spéciale pour votre candidate poissonnière. Qui est quand même
Chloé.
Voilà, candidate poissonnière, qui est quand même des Landes. Assez incroyable.
Eh ben voyez, regardez-la ce soir, c'est une forme de teaser. C'est-à-dire que quand vous voyez Chloé, vous vous dites, elle est pas sportive. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là ? Regardez la première émission et vous comprendrez que quand on est sportif dans la tête et qu'on a une vraie mentalité de gagnante, on
dit Denis Brogniart,
aller
avec
assez
ses
loin.
Béquilles. Koh-Lanta, c'est ce soir, c'est sur TF1, c'est la fin de l'émission. Merci François Audouin, merci Redouane Tella, Anne-Cécile.
Je vais vous prendre un jour comme
Raphaël
candidate.
Rousseau. Mais non.
Et je vous promets que je demanderai au chef que vous soyez la première choisie.
C'est la fin de l'émission. Juste après les infos, vous allez retrouver Ali Rebéi qui sera en direct et en public du Salon du Livre.